du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous l'avez remarqué, nous avons changé d'indicatif.
Ça vous surprend, mais il faut bien changer des choses dans la vie. Et puis c'est un recommencement, ça va être chouette.
Et beaucoup d'auditeurs ont été étonnés par le solo de trompette qui nous sert de nouvel indicatif et se demandent de qui il s'agit. Il y a eu quelques suggestions, mais...
Il y en a qui ont dit S. Armstrong, parce que pour les gens, trompette, jazz, c'est qui?
C'est Armstrong.
Et ben voilà, et ben c'est pas lui.
Nous avons un de nos fidèles auditeurs qui nous a dit « Je pense à Benny Carter », parce que Benny Carter jouait de la trompette, en plus du saxo alto, très bien d'ailleurs, un des plus grands. Eh ben non, c'est pas Benny Carter davantage.
Alors, mais honnêtement, je crois que vous le connaissez pas.
Eh oui, parce que c'est un des plus grands trompettes de jazz, mais c'est aussi un des plus méconnus. Il y a comme ça quelques artistes qui n'ont jamais enregistré sous leur nom, qui ont laissé des traces qui, de plus en plus, sont considérées comme réservées aux érudits.
Alors maintenant, écoutez bien, sur Radio Mercuride, on va vous dire son nom.
Voilà, il s'appelait...
Bobby Stark.
Robert E. Stark, né natif de New York, mais en fait harlémite, et est mort au même endroit entre 1906 et 1945. Comme tu vois, il est mort plutôt jeune.
Alors celui-là, c'est un vrai citadin.
Aucun doute.
Il vient pas de la campagne.
Et à cette époque, à Harlem, il y a une fameuse école de musique, d'ailleurs où toute une génération a appris à jouer. Elle est tenue par le lieutenant Mitchell.
Alors rien que le mot lieutenant, attention, ça rigole pas.
Il était tout à fait intraitable. Et d'autant plus qu'il était venu en France faire la guerre de 14, enfin pour eux c'était celle de 17, dans le fameux régiment de Jim Europe qui a été la première formation, le premier orchestre noir à venir en Europe. Et c'est là que les gens ont commencé à découvrir une autre manière de voir la musique. Alors, après avoir appris le piano, la clarinette, le saxophone de diverses tailles et même le sax horn, alto, il se fixe sur la trompette et il se dit « je vais quand même gagner quelques sous ». Et à cette époque-là, c'est la fameuse blue craze, c'est-à-dire que les gens sont fous du blues chanté par des dames.
Ben oui, c'est pas mal, non?
C'est pas mal. C'est donc une époque où les divas pullulent et on va même au studio, comme ça, les mains dans les poches, pour attendre qu'une se présente et demande à un trompettiste pour l'accompagner, ça arrive. Ce que fait le jeune Bobby Stark, et c'est comme ça qu'il se retrouve à accompagner une demoiselle qui s'appelle...
Julia Moody, et qui est à l'époque assez connue.
Enfin, au moins de ses voisins de palier.
Oh, c'est très méchant de dire des choses comme
ça. Ouais, je suis méchant. Elle a quand même enregistré quelques disques à cette époque-là, dont celui que vous allez entendre. Et comme à cette époque d'enregistrement acoustique, les techniques sont plutôt rustiques, eh bien, le jeune homme, on lui bouge sa trompette pour commencer, et puis on le met 3 mètres derrière pour qu'on l'entende pas trop, parce que sinon ça fait sauter l'aiguille.
Bah, c'est un peu comme chez nous. Quand on enregistre la cabrette, très souvent, les gens qui enregistrent la cabrette ont tellement peur que ça fasse trop de bruit, qu'ils mettent le cabretail tout à fait au fond et que y a certaines fois, on ne l'entend même pas. Ça, c'est un peu un problème. Eh bien, vous voyez, les problèmes, il y a 100 ans, c'était les mêmes.
Et oui, parce que là, vous allez être obligé de tendre un peu l'oreille pour écouter l'accompagnement plutôt pétulant, d'ailleurs. Et ça s'appelle donc, chère madame...
Police Blues.
Walk to the corner, 31st. Along come the policeman and took me by my arm. Carried me to the station, said I was full of food. Oh, carried me to the station, said I was full of food. That's why I'm worrying about the police.
Comme il joue très bien de la trompette, ce jeune homme, eh bien, il finit par être un peu connu, puis il fait ses débuts chez June Clark, et puis chez Chick Webb, qui commence également sa carrière à cette époque-là. Et puis un beau jour...
C'est sa chance. Il va être recruté dans le grand orchestre de Fletcher Anderson.
Alors là. Et en plus, il va être recruté pour remplacer la star de l'orchestre, le trompettiste louisianais Tommy Lanier, qui, on n'a jamais su très bien pourquoi, a décidé de quitter cet orchestre en pleine Loire pour partir pour l'Europe, avec un orchestre qui était loin de valoir celui de Fletcher Anderson, et pour la musique, et pour les sous que ça pouvait lui rapporter. Mystère.
Je ne sais pas si on vous l'a présenté. Notre Bobby Stark.
Bon, d'après les quelques photos qu'on en a, parce que non seulement il est méconnu, mais on n'a pas beaucoup de photos de lui, plutôt petit, plutôt bien de sa personne, plutôt élégant, avec une bonne tête.
Mais alors, le truc, c'est que c'est un fameux plaisantin. Alors là, je peux vous dire, on dirait maintenant un type vraiment pas sérieux.
Oui, puis c'est un plaisantin jusqu'au boutiste. Il n'hésite devant rien. Mais ça, évidemment... En entrant chez Fletcher fin 1927, je pense qu'il va pas trop le montrer. En tout cas, on lui confie l'introduction d'un arrangement qui va devenir très célèbre sur un morceau qu'il est déjà et qui s'appelle...
King Porter's Tomb.
Ça, c'est un morceau de Jelly Roll Morton, composé bien longtemps avant, en l'honneur d'un pianiste resté totalement cryptique, jamais enregistré. C'est une rencontre de hasard de Jelly Roll Morton. Ce pianiste s'appelait Porter King, d'où le King Porter's Tomb que vous allez entendre, et notre ami Bobby Stark.
Malgré toutes ces plaisanteries, il ne devait quand même pas en mener large.
Probable.
Quand même. Hein, quand on fait son premier solo chez Fletcher Anderson,
Thank you. demandé à Bobby Stark quels sont les meilleurs disques que vous avez faits, il répondait invariablement, c'est la séance de Oh Baby.
Alors là, qu'est-ce que c'est que la séance de Oh Baby ?
Eh bien, c'est une séance de l'orchestre Fletcher Anderson, donc, où trois morceaux ont été enregistrés, où il se taille la part du lion. Alors, le côté amusant de l'affaire, c'est qu'il était en tandem de trompette avec Rex Stewart, qui était entré fraîchement également, et qu'il était convenu qu'il jouerait les parties orchestrales de l'arrangement et que Rex Stewart prendrait les solos. Puis finalement, ils ont discuté ensemble, peut-être même qu'ils l'ont joué au dé, j'ai jamais su, mais en tout cas, c'est Rex Stewart qui a joué l'arrangement et Bobby Stark qui a fait les solos, pratiquement tous. Et les morceaux s'appellent...
Il y en a trois. Oh, baby. Et puis, feeling good. Oh, je suis bien là. Et enfin, I'm feeling devilish.
Je me sens diabolique. On vous les passe diaboliquement, tous les trois à la file.
Thank you.
Ces disques n'étaient pas très bien enregistrés et Pascal va vous expliquer pourquoi.
Et oui, parce que figurez-vous que c'était fait pour être vendu à petit prix, imaginez naturellement à qui, à des Noirs. Et donc, on ne s'était pas trop cassé la tête, c'était des enregistrements qui ne coûtaient pas cher.
Alors, pour que ça coûte pas cher, c'est très simple. La Maison Columbia, qui donc voulait ratisser le plus profond possible, et, comme tu disais, mettre les disques jusque dans les épiceries, elle avait simplement utilisé ses vieux studios acoustiques. Tu sais, les studios à cornet acoustiques, où on enregistrait, comme tout à l'heure, la chanteuse de blues. Alors que depuis 3 ans à cette époque-là, la Maison Columbia disposait de l'enregistrement électrique qui était évidemment très supérieur.
Mais évidemment beaucoup plus cher à faire.
Ah bien sûr, surtout que pour l'acoustique, il suffisait d'un technicien pour surveiller la manip, tandis que l'électrique, il fallait déjà un ingénieur du son, 2 assistants, c'est tout à fait autre chose. Mais le nom de Fletcher Anderson valait très cher. Donc, pour travailler à bas prix, Fletcher voulait bien, après tout, ça lui faisait un peu de sous en plus, mais pas sous son nom. Donc, tous les enregistrements acoustiques que Fletcher a pu faire dans ces conditions-là, ils sont sous un autre nom. Là, ça s'appelle les Dixie Stompers. Et évidemment, tout le monde a reconnu, mais le nom n'était pas sur l'étiquette. C'est une époque dont vous pouvez vous faire difficilement une idée. Franchement, les années folles, c'est une époque de fou.
Ouais, d'abord, il y avait plein de gens très jeunes et qui faisaient parfois un peu les fous. Et pour vous donner une idée, Bobby Stark, on vous a dit déjà des choses sur lui. C'était un drôle d'oiseau. On va vous donner une anecdote qui vous éclairera un peu sur le gars. Il était dans une rue avec des amis musiciens, naturellement, et donc, il faisait très chaud. Tous les magasins avaient les portes, fenêtres, etc. Tout était ouvert. Et en passant devant un restaurant chinois, il voit dans la cuisine un des cuisiniers qui tient un saladier débordant de pommes de terre.
Ah oui, c'est la corvée de pluche qui venait de s'achever.
Et un de ses copains, il devait être pas mal alcoolisé.
Ah oui, généralement, ils étaient bien partis, ouais, prohibition ou pas.
Tout ce petit monde-là. Un de ses copains lui dit, dis donc, t'es pas capable de tirer sur le saladier sans blesser le cuisinier. Pouf, dit Bobby Stark. Pas de problème. Il sort son pistolet, Parce qu'effectivement, tous ces gars-là, musiciens, pas musiciens, ils étaient armés.
Ils étaient tous armés et lui, il avait un Colt.
Il avait un Colt.
Un petit.
C'était pas forcément inutile parce qu'il rentrait le soir. C'était pas la sécurité, hein. Bref, il sort son Colt et il tire. Ben écoutez, il a fait sauter des mains du cuisinier le saladier sans blesser le cuisinier avec toutes les patates. Oui, qui ont volé en l'air.
Mais il a pulvérisé le saladier, alors.
Je vous dis pas. Et c'est rentré dans la légende de Bobby Stark, quand même.
Oui. D'ailleurs, le pauvre Chinois a pu appeler la police. Je crois qu'il s'est rien passé ensuite.
Oui.
Ils ont tous foutu le camp en courant.
Bien
et
sûr.
En rigolant, tu sais, c'est des types qui avaient 20 ans, hein, finalement.
Et pas fou, pas fou.
On se rend pas compte, d'ailleurs, de la jeunesse des types qui faisaient cette musique-là et de la vie qui menait. Tu sais qu'à Harlem, un type qui voulait jouer, qui avait envie de jouer, il pouvait jouer 14 heures par jour.
Oui, il fallait quand même être un peu...
Mais il y en a qui le faisaient.
Oui.
Mais en tout cas, généralement, ils sont plutôt morts jeunes, comme tu vois ce Bobby Stark qui est mort à 39 ans, mais ses collègues
quand
aussi.
Même.
Tommy
ouais.
Lanier est mort à 39 ans aussi.
Ouais.
Ce musicien énergique qui a vraiment de l'attaque, il a un peu une mentalité, ça passe ou ça casse, hein, quand même, dans sa manière d'improviser. Il rappelle un peu un autre musicien qui avait été enregistré très jeune pour concurrencer Louis Armstrong et qui, lui, jouait carrément le ça passe ou ça casse, mais ça cassait souvent, qui s'appelait Jabbo Smith, qui rappellera des choses à certains de nos auditeurs. Lui, Stark, il retombe toujours sur ses pattes. Voici deux morceaux de Fletcher Anderson, toujours, où il est responsable de tous les solos de trompette. Le premier s'appelle
Blazin.
Et le second.
Ah, on parlait de chinois tout à l'heure. The Wong Wong Blues. Thank you.
ne t'ai pas dit ?
Ah, parce que tu ne me dis pas tout.
Ah, je ne peux pas tout dire d'un coup. C'est que Bobby Stark et Benny Carter ont vécu leur enfance dans le même quartier. Ils se connaissaient depuis tout petit. Et ils ont fait des carrières de musiciens où ils ne se sont jamais perdus de vue.
Benny Carter s'est aperçu qu'ils pouvaient compléter leur vie musicale avec des enregistrements de studio. Il a eu une très bonne idée, Benny Carter. C'est de créer un orchestre de studio.
Ah oui, qui ne servirait que le temps d'une séance. Et en plus, tu sais qu'il s'était retrouvé avec justement Bobby Stark chez Fletcher Anderson. Résultat, où Benny Carter a-t-il fait son marché ?
Eh ben, juste à côté, dans l'orchestre Fletcher. Entre nous, je ne suis pas tout à fait sûr que Fletcher devait être très content s'il l'avait appris, mais bon.
Oui, mais moi je pense qu'il l'a su parce que Benny Carter, qui était un malin, a engagé pour tenir le piano le petit frère de Fletcher Anderson, également pianiste et chef d'orchestre, qui s'appelait Horace.
C'est malin.
Voilà, je veux dire qu'il n'a pas pris les plus mauvais. Et c'est un superbe orchestre, qui a enregistré ce jour-là sous le nom de...
Un nom très porteur, avec un humour tout à fait noir américain. Ils se sont fait appeler les Chocolate Dandies.
Je ne suis pas sûr qu'il soit Benny Carter à l'origine du nom parce que le nom avait déjà servi et il servira encore après, toujours pour du studio. Évidemment, avec lui, il y a son grand copain Hawkins, il y a tout un tas de gens absolument fabuleux. Et vous entendrez le grand trombone Jimmy Harrison chanter « Get Another Sweetie Now ». Et puis après, on entendra un morceau qui s'appelle
« Dee Blues ».
Thank you. Pendant qu'on en est à Benny Carter, il est impossible de passer à côté d'un fabuleux arrangement sur un morceau de Gershwin, parce que, on va quand même aller chercher chez Gershwin. Les musiciens disaient volontiers que Gershwin avait pris beaucoup de notes pour leur piquer beaucoup d'idées. Avec les idées passées par Gershwin, comme certains mots français passés en Angleterre et revenus en France.
Ils en ont fait leur miel à leur tour.
Et sans rancune. Ça s'appelle « Somebody Loves Me ». Alors là-dedans, il y a aussi l'intervention d'un trio vocal. C'est un des tout premiers trios vocaux en big band où le tromboniste qu'on a entendu il y a un instant, Jimmy Harrison, démontre qu'il avait la voix de son trombone.
Somebody loves me, and the times I wished I knew just who it could be. It worries me, yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe, maybe you were meant to be my loving baby, baby, baby. Somebody loves me, and I wonder who. believe it's you, baby. I don't know. Papa got to see tonight. Oh, my, my, my.
Avec ça, vous n'avez toujours pas eu connaissance des paramètres, origines et pédigrés de notre indicatif nouveau.
Ben, il faut savoir comment ça s'appelle déjà.
Absolument.
Ça s'appelle, ah, oh, comme c'est joli, My Pretty Girl, ce qui veut dire, ah, comme elle est mignonne ma petite amie.
Ah, ma charmante. Il y a un petit inconvénient.
Oui, c'est vrai. Il y a un petit inconvénient. Pour des jazzmen comme vous êtes, vous et nous, pur et dur, il y a l'arrivée des crooners. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crooner ? C'est un type qui chante d'une voix assez sirupeuse, des paroles particulièrement sirupeuses également, mais ça devient énormément à la mode.
À quoi doit-on cette vogue des crooners ? Eh bien, au développement de la radio, parce que maintenant, les gens, ils ont, en plus des disques, qui étaient assez sélectifs, souvent, puis qu'on passait pas à tout bout de champ non plus, ça s'usait. Là, ils ont en permanence dans leur cuisine ou dans leur salon la radio. Alors la radio, eh ben les ménagères, elles aiment les crooners, c'est comme ça.
Eh ben oui.
Eh oui, eh ben quelle que soit l'origine des gens, les dames aiment les crooners. Voilà, c'est comme ça. Ça leur parle.
Pas forcément toutes, mais bon.
Enfin, généralement, ça leur parle. En tout cas, c'est un vrai marché. Et comme c'est après la crise de 29 qu'on est à peine en train de se refaire une santé et que l'orchestre de Fletcher a traversé toute cette époque en courbant les chines, eh bien, les marques de disques imposent des crooners et il n'est pas question de discuter.
Ah oui, certes.
Donc, ce My Pretty Girl est grevé d'un chorus vocal qui nous a un peu ennuyés et on s'est dit, au fond, par un habile montage, nous allons vous passer ce morceau en entier sans son crooner.
Ah...
Ce sacré Bobby Stark, c'est un petit bonhomme, mais c'est un grand farceur, en plus d'ailleurs d'un grand buveur. Et là, il commence à fatiguer sérieusement son chef d'orchestre.
D'autant plus qu'il n'est pas forcément seul.
Non, non, non.
Y a un copain de plaisanterie, plus ou moins maligne et plus ou moins intelligente, en la personne de Rex Stewart, trompettiste, qui adore ce genre de sottises.
Et qui est absolument avec Bobby Starr comme les deux doigts de la main. Parce qu'ils sont voisins de pupitre et ils font, musicalement parlant, de très belles choses ensemble. Il faut savoir aussi qu'on n'a jamais pu enregistrer, à l'époque, cet orchestre-là jouant pour la danse. Et que là, c'était des morceaux qui pouvaient durer 10 minutes où il y avait énormément d'improvisation. Mais ça, on n'en aura jamais la trace. Parce qu'à l'époque, la technique n'existait pas. Enfin, en tout cas, c'était un tandem de trompettes très connu, très apprécié et très blagueur. Et alors là, le fin du fin, c'est quand un troisième larron est arrivé, qui s'appelait Sandy Williams, qui jouait du trombone et qui buvait comme 4, là où Bobby Starr buvait comme 3,5. Hein, c'était, voilà. Et en plus, ce sacré Bobby Starr, qu'il n'était jamais foutu d'être à l'heure, et par-dessus le marché, quand il arrivait, la première chose qu'il faisait, c'était de demander à Fletcher Anderson un supplément et un pourboire pour aller boire, justement.
C'était quelqu'un qui n'avait franchement pas de limite. D'ailleurs, un jour, il est arrivé tellement en retard qu'il s'est dit, il faut que je fasse rire tout le monde, autrement je vais en prendre une sérieuse, avoinée.
Surtout que ça se passait dans un endroit extrêmement important pour Fletcher Anderson, un grand dancing pour blancs, où les seuls noirs c'était l'orchestre et le service, qui s'appelait le Roseland, et où il jouait très régulièrement depuis des années et des années.
Donc, on attend le gars Bobby, et Fletcher était absolument exaspéré.
Surtout que le show avait commencé.
Il finit par arriver donc, il montre un énorme réveil, au grand comme une main.
Ah ben ceux qui racontent ça disent, il nous a sorti un réveil comme votre grand-père en avait.
Et il a dit...
Tenez, voilà mon chauffeur, il avait un chauffeur de taxi avec lui, il pourra vous le certifier, c'est à cause de ce truc-là que je ne me suis pas réveillé, il n'a pas sonné. Alors là, c'était un tel culot que tout l'orchestre s'est mis à rire.
Et que tout le public était écroulé, finalement. Comment punir quelqu'un qui a tellement fait rire le public ?
Surtout que le propriétaire du Roseland est sorti de son bureau pour voir ce qui se passait. Et quand il a vu ce qui se passait, il a rigolé comme tout le monde. Donc, Bobby Starr n'a pas été renvoyé cette fois-là. D'ailleurs, on disait de lui qu'il était, à chaque saison, au moins renvoyé et repris deux fois.
C'est dire.
Pour vous évoquer ce tandem de trompettes, voici un morceau, ils sont ensemble. Bobby Starr et Rex Stewart. Ils jouent le blues. C'est un morceau où, d'ailleurs, on joue le blues. Ça s'appelle
Just Blues. Thank you.
eh bien, il va quand même finalement se faire virer de l'orchestre. Alors là, il faut vous dire qu'avec Sandy Williams, ils en ont fait une bien bonne dans un endroit extrêmement sélect à Hollywood.
Oui, là, ils ont mis le comble à leur infamie.
C'était un 4 juillet.
Et ce 4 juillet, ils ont décidé de le fêter à leur manière, avec un feu d'artifice. Sauf que le feu d'artifice, il était...
dans les vestiaires. Ils ont tiré une pyrotechnie dans les vestiaires de la boîte hollywoodienne où l'orchestre jouait ce soir-là. Ça fait un scandale absolument gigantesque. Je suppose que les pompiers ont dû être sollicités. Enfin, bon, bref, là, je crois que ça a été la fin de l'aventure Fletcherienne de Bobby Stark et de Sandy Williams. Mais ils sont tombés sur leurs pieds, tu sais. Ils ont été immédiatement repris par Chick Webb, qui craignait pas le risque. Et puis, la guerre est arrivée. Bobby Stark a été mobilisé. Il est resté 2 ans à l'armée. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a fait, mais en tout cas, il a fini par y être réformé.
Et puis finalement, ben, à force...
de whisky et de gin.
Et de whisky, de gin, de tout ça. Bon, sa santé ne s'était pas arrangée et ben, il a fini par mourir à...
39 ans. En 1945. Mais nous allons vous faire écouter pour terminer un morceau qu'il a enregistré avant de quitter Fletcher. Le temps avait un peu passé et il a fallu que... les orchestres s'adaptent aux danseurs qui étaient de plus en plus exigeants sur la pulsation et le tempo. Car on avait inventé et on perfectionnait alors le...
Lindy Hop, qui en réalité, nous en France, on le connaît sous le nom de rock acrobatique que énormément, maintenant de jeunes, aiment danser.
Oui, d'ailleurs, le mot de Lindy commence à passer dans le langage courant. Et qu'est-ce qu'ils ont donné comme morceau au public ? Eh bien... le fameux King Porter Stomp avec lequel nous avons commencé l'émission. Et ils l'ont appelé...
The New King Porter Stomp.
C'était pas la peine de chercher à midi à 14h. Et vous remarquerez que pour évoquer Bobby Stark, auteur de notre indicatif où il joue avec tant de bonheur...
on avait commencé par King Porter Stomp, rappelez-vous. C'était il n'y a pas longtemps.
Il y a juste une heure.
Eh bien, on va terminer par The New... King Porter Stomp.
Ben voilà, d'un porteur à l'autre en quelque sorte. We'll be right back.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.